Bonjour Jean-Luc Godard.
Bonjour.
Vous allez bien?
Ça va, pas trop mal.
Vous avez un nouveau film, et comme souvent chez vous, vous êtes parti d'un titre, je crois.
Oui.
Adieu au langage.
Oui.
Pourquoi ce titre?
Oh, grosso modo, ça voulait dire adieu à ce que les gens appellent le langage qui ne l'est pas. On pourrait dire aujourd'hui de la conversation ou du talk show ou même du dialogue personnel entre les gens aujourd'hui qui est autre chose, qui est la langue, le langage, c'est bien plus au fond, ça vient de plus loin, c'est lié. C'est une espèce d'alliance de la parole et de l'image que peut-être l'enfant qui naît connaît un bref moment quand il naît, puisque à la fois il est ébloui et à la fois il crie, et que ensuite seulement vient, disons, la communication, et que la communication là, pour moi et certains philosophes, aucun rapport sérieux avec le langage. Ça n'empêche pas du tout qu'on dit les... Oui, enfin, les Anglais parlent comme ça, les Français parlent comme ça, ce qui est tout autre chose. Il y a la voix, il y a eu la formation dans le cerveau d'un quelque chose qui a permis à la voix de sortir de la bouche, mais ce qui sort de la bouche pourrait être quelque chose de langage, si elle est alliée aussi avec ce qui va avec les yeux et les oreilles, ce que fait le cinéma, si vous voulez. Et que ne fait pas la littérature, par exemple. Que fait là aussi la peinture à sa façon. Mais que ne font pas tout ce qu'on appelle communication.
Ce que les Anglais aussi appellent small talk.
Oui, small talk, talk show, etc. L'autre jour, j'ai vu un ostéopathe mais celui que je connais est beaucoup plus que ça, c'est plus un... Enfin, il me disait juste à propos du chien qui joue dans mon film, qui est le chien d'Anne-Marie et le mien, et qui me disait, on parlait de communication, et qui me disait, les animaux ne communiquent pas, le chien en particulier, il communie.
Il communie.
Oui. Et d'après l'expérience que j'ai avec Roxy, c'est tout à fait vrai. On ne communique pas, on communie.
Qu'est-ce qu'il incarne, ce chien, dans votre film? Une forme de liberté?
Un premier communiant. Quelqu'un qui sert le lien. Disons, les croquettes sont son hostie. Il en avale beaucoup. Mais, enfin voilà, des choses, oui. Puisque l'histoire du film, c'est ça. C'est un couple, un duo, qui ne peut plus marcher en duo. Qui n'est plus, comme disait un philosophe italien, seulement un individu, mais un individu doué, double. Ou un Arendt disait que dans la solitude, on n'est jamais seul. C'est pas comme dans l'isolement. Dans la solitude, on n'est jamais seul. On est toujours deux, soi et l'autre. Et entre soi et l'autre, on sait bien... Aujourd'hui, bon, on en parle beaucoup, on communique beaucoup, et comme ça, mais il n'y a pas le lien. Et les animaux, les fleurs, beaucoup de choses, moi, disons, les animaux plutôt, parce que, oui, ils communient.
Et peuvent servir aussi à l'unité d'un couple.
Et donc, ils servent non pas une unité, mais à faire les trois personnes, comme disait le vieux philosophe français, Léon Brunswick, l'un est dans l'autre, et l'autre est dans l'un, et ce sont les trois personnes.
Et ce sont les trois. Et tout cela avec un procédé qui est plutôt utilisé par le cinéma américain ou hollywoodien, la 3D. Vous avez tourné le film
oui,
en 3D,
c'est un
pourquoi
truc. Ben souvent, j'ai toujours, de même que quand il y a eu la pellicule sensible, à l'époque, même à bout de souffle, on avait tourné sur la Gewehr 36, qui était la pellicule la plus sensible par rapport à Kodak. Ensuite, on a pris l'ILF. Donc, j'ai toujours été intéressé par les objectifs, par le zoom, par ceci qui permettent, oui, de comprendre un peu ce que veulent faire les techniciens avec ça, qui est une petite invention technologique qui ne sert pas beaucoup, comme la brouette, par exemple. Bon, ils inventent la brouette, les techniciens, mais ensuite, elle va servir à quoi? C'est ça qui m'intéresse. Et donc, on peut servir de la brouette d'une autre façon que vont s'en servir telle et telle personne. Disons, la brouette est une image de... Donc on peut s'en servir, la 3D, ça va. C'est juste quelque chose qui vous fait croire sur un écran à deux dimensions, sur le plat, disons sur une surface plate, que vous pouvez la voir en relief, très modestement. Mais voilà, donc je me dis, ce qui est intéressant, c'est pas d'aller sur cette... ou d'aller vers la profondeur, mais... On voit plus la profondeur à l'époque dans Citizen Kane, quand il prenait simplement des objectifs ouverts et qui faisait des contre-plongées. Il y avait un désir, puisque c'est plat, de faire la profondeur. Un désir qu'a rarement eu la peinture, sauf à l'époque de la Renaissance, quand ils ont inventé la perspective, si vous voulez. Mais ensuite, Il construisait souvent, Piero della Francesca construisait des tableaux très soigneusement, avec la perspective, les lignes de fuite et comme ça. Mais après, il n'y avait pas que ça. C'était pour aller ailleurs, dans la religion, ailleurs, ou dans des choses comme ça. Et dans mon film, je cite une parole de Céline, qui disait « Le difficile, c'est de faire entrer le plat dans la profondeur. » Non pas, c'est-à-dire exactement le contraire. Et moi, j'aime bien faire le... D'abord, on dit par esprit de contradiction, mais parce que dans cet esprit de contradiction, on peut trouver une chose contra la diction, une autre diction, qui fait qu'il y a aussi le son qui vient, voilà, et que ça va, qu'on va à côté tout en se servant de ça. Mais s'il n'y avait pas eu la 3D, je n'aurais pas fait le même film, ou je n'aurais pas eu, je sais pas, l'envie ou l'ambition de le faire.
En tout cas, ça vous a amusé d'expérimenter cela.
Intéressé, c'est comme si vous prenez un vieux rafio pour parcourir l'Atlantique plutôt qu'un beau transatlantique, en disant bon, enfin je sais pas, de faire le contraire parce qu'il n'est pas fait. S'il était fait, on le ferait pas, mais puisqu'il n'est pas fait, ça a toujours été, je crois, dès le début, inconsciemment, puis maintenant complètement inconsciemment, de dire et si c'était pas comme ça.
Et vous aimez bien la contradiction. Sur la 3D, à un moment, vous faites un effet, tout d'un coup, le regard se brouille, ou les images se mélangent quelque peu, et on s'aperçoit que finalement, en masquant un œil ou un autre, on obtient le champ et le contre-champ sur la même image. Est-ce que j'ai bien résumé l'effet ?
Oui, mais si on le voit en 2D, c'est une surimpression. Et suivant le film, ça peut... Quel film, ça peut faire la même chose. Là, disons, c'est un peu plus intéressant, parce qu'on peut se dire, tiens, on a deux yeux.
Ça permet de se dire qu'on a deux yeux, de se rappeler qu'on a deux yeux.
Oui, et puis ensuite d'en faire quelque chose.
Ce film, Jean-Luc Godard, on y reviendra tout à l'heure, ce film a été choisi pour Cannes, en sélection officielle pour la Palme d'Or. Flatté, curieux des réactions ou indifférent à ça?
J'ai souvent eu des films à Cannes en sélection officielle ou en sélection non officielle, mais j'ai eu ça, je trouvais normal de... Si on peut concourir et puis de faire plaisir aussi au producteur ou à moi, si je suis coproducteur, de l'aspect commercial que ça amène aujourd'hui, beaucoup plus fort qu'autrefois. Mais je suis très souvent à Cannes, mais bien avant d'avoir fait des films. Je me souviens de la projection de l'Aventura d'Antonioni, qui avait été sifflée à l'époque, et comme ça, sauf qu'il peut être plus... Je m'en souviens plus que sifflé à l'époque, et comme ça, ben voilà.
Souvent présent, mais jamais primé.
Oui, mais c'est pas le problème.
Alors la question, irez-vous présenter votre film?
Ah non, non. Non, c'est plus de... Je ne suis plus dans cette partie-là aujourd'hui.
Vous n'avez rien à dire à ceux que vous avez appelés dans une formule célèbre les professionnels
oui, non, mais
de la profession.
Je ne peux pas parler, il parle, pour employer ce mot, il parle un autre langage que moi, qui pour moi n'en est pas. Donc c'est pas... Que ce soit la critique, les officiels, le producteur même, c'est autre chose, c'est dans un autre monde, où je me souviens j'ai lu un entretien avec un enfant autiste qui avait progressé, qui commençait à pouvoir... quitter son langage à lui et parler le langage des terriens, disons, comme si lui était d'une autre planète et qu'il pouvait. Et il disait, je me souviens, quand je suis né, je n'étais pas là. Voilà.
Vous dites, je ne parle pas ou je ne parle plus le même
langage.
Si,
je peux. Ben, je suis sur la Terre, je suis un être humain comme comme n'importe quel autre, donc je peux vous dire rendez-vous à 4h30, je peux vous dire ceci, je peux même des choses plus profondes, plus profondes sur l'amour ou sur ceci ou comme ça, mais je préfère maintenant si j'étais peintre, faire la laisser dans la peinture ou là dans un film qui pour moi n'est pas un film qui est un moment de cinéma comme il y en a d'autres, et donc je n'ai pas à faire semblant ce que je suis en train de faire semblant ici.
Parce que à Cannes y a beaucoup de professionnels qui seraient sûrement heureux de parler avec vous, heureux de vous voir. Regardez.
Mais parler, ce qu'ils appellent parler, ne sert à rien. C'est pas de la parole, c'est du talk qui peut être intéressant et nécessaire. Mais il faut qu'il y ait un travail à la main, sinon c'est une déclaration ministérielle ou un truc. Ça n'a plus de sens, tout ce qui s'échange. Ma foi, on est dans ce monde-là, donc je l'accepte et je fais avec. Je me sers d'un iPhone pour filmer s'il faut. Je ne veux pas prendre une grosse caméra ou un gros machin, ou même pour le micro, sauf quelquefois, je ne vais pas prendre un machin comme vous avez là. Je fais au plus simple, c'est-à-dire j'essaye de faire les films qu'un individu doué, alors là il y a encore un autre jeu de mots, car il est non seulement individué, mais il est doué pour faire autre chose et en faire quelque chose avec ça, ou faire les films que les gens ne font pas, que la mère de famille, malgré tout son petit bazar technique qu'elle accepte chez Darty, eh ben, elle ne fait pas quelque chose avec son enfant ou avec son mari.
Vous faites des films, vous l'avez dit, pour voir ce qu'on ne voit pas et pour entendre ce qu'on ne dit pas.
Voilà.
Je reviens à Cannes, il y a un homme qui sera présent cette semaine à Cannes, dont je voulais vous parler, qui s'appelle Quentin Tarantino, qui vous adore, qui revendique votre influence, qui a baptisé sa société Bande à part.
Oui, il n'a rien payé. Oui.
En référence à l'un de vos films.
Non.
Il vous intéresse, Tarantino?
Non, absolument. Comme on disait au XVIIIe siècle, un faquin.
Un faquin.
Un faquin, oui. Un pauvre garçon. Mais tant mieux s'il est heureux. Ça, alors, j'ai plus de... Autrefois, c'est le genre de gens qu'on détestait ou tout ça. Mais plus maintenant. On laisse aller.
Il a pourtant acquis un statut qui est assez rare dans le cinéma et qui a longtemps été le vôtre, celui du réalisateur star. On attend le nouveau Tarantino comme on attendait le dernier Godard ou le dernier Hitchcock.
Eh ben là, c'est là. Ça m'a fait du mal. Ça m'a pas fait de bien. Et voilà. Donc je cherchais à m'en échapper par beaucoup de moyens, par les films, par le déménagement, partout, par même... par quitter Paris, que j'avais vécu 30 ans, tout à fait. Donc c'est pas... Et puis cette notion d'auteur qui est arrivée quand les deux ou trois personnes, la Nouvelle Vague, parce que c'était deux ou trois personnes, hein, Rivette, moi, Truffaut, Chabrol était un peu à côté, c'était un compagnon. Romer était une espèce d'oncle bienfaisant. Melville aussi. Voilà, c'est tout. Roger Lénard aussi. Ou d'autres choses. Sinon, on était trois. Au Canada, ils étaient deux ou trois. Lefebvre, j'ai oublié les noms. Au Brésil aussi. Glauber Rocha, ou comme ça. Ou en Italie, au début, Bertolucci, Sergio Amico, qu'on a oublié. Et maintenant, bon, Bertolucci est devenu un bon gros notaire, de trucs comme ça. Je crois qu'il a eu des accidents aussi, donc paix à son âme. Mais voilà. Donc quand la Nouvelle Vague a dit la notion d'auteur, c'était simplement pour protester contre le fait que l'auteur du film était le scénariste. Que le metteur en scène était juste un technicien et qu'il en reste encore aujourd'hui, puisqu'au centre du cinéma, on a un double contrat. Si le film doit être agréé par le centre, parce qu'il peut se faire aussi tout à fait en dehors, un contrat d'auteur et un contrat de technicien. C'est resté encore. Comme quoi. Et puis, cette idée que l'auteur, c'est celui qui écrit. Il y a encore beaucoup de metteurs en scène qui mettent écrit et réalisé, et qui sont fiers d'avoir écrit. Mais vous pouvez essayer de faire un dessin avec une caméra, vous n'y arriverez pas. Il faut prendre un crayon, il faut écrire. Donc tout ça, c'était contre de dire l'auteur. C'était une époque où de dire l'auteur n'est pas le scénariste. À l'époque, c'est pas Janson, c'est pas X ou Y, c'est le metteur en scène. Voilà. Et puis c'est devenu, on a oublié ça, on privilégie toujours l'auteur plutôt que de dire au théâtre, on garde le côté encore metteur en scène, qu'on ne confond pas que l'auteur du livret à l'opéra ou l'auteur de la pièce. C'est un peu ce que faire Beaumarchais. Mais ça vient de chez Beaumarchais aussi, qui a créé la société des auteurs à l'époque contre les acteurs. Mais c'est simplement parce qu'on ne payait pas les auteurs et qu'on payait les acteurs. Et puis ensuite, le metteur en scène. À l'époque, les films d'Hitchcock, Hitchcock n'avait pas son nom au-dessus du titre. Il avait son nom en dessous. Après la Nouvelle Vague, il l'a eu au-dessus. Ouais. Et beaucoup d'autres.
Et Hitchcock n'écrivait pas ses films, il n'écrivait pas ses scénarios.
Non, c'est pour ça que c'est un plus grand metteur en scène pour moi que d'autres, il les composait.
Vous avez dit une fois, Hitchcock, c'est un poète maudit qui a connu un immense succès commercial.
Oui, c'est le seul.
Le seul?
Oui. Rimbaud n'a pas connu ça. Stroheim n'a pas connu ça. Vigo n'a pas connu ça.
Poète maudit, vraiment?
Oui, mais c'est pas toujours bien réussi ce qu'il a fait. Mais il y a des choses qui il n'y a que lui qui l'a fait.
Alors, Tarantino, donc, on oublie. Mais oui. Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent aujourd'hui dans la culture populaire d'aujourd'hui?
Mais qu'est-ce que vous appelez la culture populaire?
Le cinéma populaire, la télévision populaire. Je ne sais pas si je dois vous parler de musique populaire, etc.
Moi, je m'intéresse à ce qui se passe. J'écoute, je regarde un peu la télévision. Je me sers même d'un iPhone pour communiquer. Des choses précises, et j'essaye même, si c'est des amis, avec mon iPhone, de leur envoyer plutôt que des textos, ou un mélange de textos et de photos, ou de petites vidéos, c'est-à-dire un film.
Vous envoyez des fichiers de...
Non,
de
pas
film,
de fichiers. Oui. Non, pas de fichiers, ça c'est la police, mais...
Pardon, c'est un terme d'informatique ou de téléphonie.
Ben
alors,
oui.
Vous envoyez des petites vidéos.
Des petites vidéos.
Par...
Oui.
Par MMS.
Oui, par exemple, je me sers beaucoup de la publication chez Gallimard des histoires du cinéma pour, quand j'essaie d'exprimer une idée ou comme ça, de m'en servir comme photo, non plus comme critique de film ou comme ça, mais comme quelque chose personnel. Si je parle d'une belle femme, de prendre une photo d'une actrice que j'aimais, etc. Ou d'un paysage, ou tout ça. Ou si je me promène avec mon chien, de prendre encore quelques photos et de mettre... l'autre jour, après que la personne... que ce docteur m'ait dit « le chien communie », eh ben j'ai pris une ou deux, mais j'ai des milliers de photos de vidéos de Roxy que j'ai pris au cours de ces 4 ans, et j'essaye d'en trouver une qui peut aller avec un petit texte très très banal, un film complètement rudimentaire, si vous voulez, mais ce que les gens ne font pas. Et ils en sont tellement privés que les techniciens inventent plein de trucs, de formules, de génériques, de trucs comme ça, pour dissimuler l'absence de pensée. Et ça marche très bien, ce qu'on appelle populaire. Ça marche très fort. Il faut bien se le dire. Mais après, il y a un envers quand même, c'est que il y a une vieille loi de Lavoisier qui est encore... valable, à mon avis, en tout cas pour moi, qui rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et quand on fait quelque chose comme ça, ben on a des difficultés à ranger les bidons en Ukraine, ou pour parler de l'Ukraine aujourd'hui, sans parler de l'Afrique qui est entre les deux. On peut dire, d'un point de vue anthropologique, c'est... Ou dans 100 ans, on étudiera cette situation absolument effroyable de l'Afrique, comment c'est devenu petit à petit comme ça.
Comme ça, c'est-à-dire en...
Oui, vous savez, à l'époque, moi à l'époque, j'ai commencé, je ne peux même pas dire que c'était de la politique, mais j'ai signé l'appel de Stockholm. Et ce pauvre appel de Stockholm, qu'est-ce qu'il est devenu?
C'était...
J'ai écouté aussi les gens dire, ou même des philosophes lire, ou des écrivains, ou des politiques dire après les camps de concentration, plus jamais ça. Et puis, moi, à un moment, je crois, dans un film, je fais dire à quelqu'un, oui, plus jamais ça, mais enfin, c'est toujours ça, hein. Plus jamais ça, c'est comme on dit, c'est toujours ça. ça fait... Voilà, bon, ben, c'est toujours ça. On vit dans cette époque-là, c'est toujours ça. Hein. On a la télé, on a des salaires, un peu de salaire, pas beaucoup, mais on a, il y en a qui en ont beaucoup, bon, ben, ma foi, on se débrouille, on fait, c'est toujours ça.